Direct en jeu, la radio insolite, comment découvrir ou redécouvrir quelqu'un que j'ai croisé indirectement il y a 3 ans. Lui ne le sait pas, il se demande de quoi il parle, de quoi je parle. Et pourtant, bonjour Donna.
Bonjour.
Alors, pour commencer déjà, alors je peux pas, tu m'excuses. Donna, c'est un prénom. D-O-N-A-T.
Oui, c'est un prénom. Alors, c'est un prénom qui vient du sud de la France. Sud de la France, et on a eu des saints Donat, figure-toi. On en a eu plusieurs, dont un qui s'est fait brûler pour hérésie, puisqu'il avait créé son propre ordre religieux, où on était fouetté, enfin, c'était des choses assez abominables. Et on a effectivement ce prénom qui est très beau et qui est un vieux, vieux prénom français, dont l'origine, visiblement, l'étymologie serait don de Dieu. Vous rendez compte? Le poids que c'est comme prénom. Et c'est vrai que ma mère a décidé de m'appeler comme ça et voilà, je porte ce poids, cette responsabilité depuis. Mais voilà, c'était une petite page historique avant de parler encore d'une autre histoire qui nous rassemble.
Bah exactement. Alors, si je dis pas de bêtises, tu as fait des études?
Oula, oui, quelques études, effectivement. Alors après, ça dépend lesquelles, études théâtrales d'un côté, et puis études, j'allais dire, classiques de l'autre.
C'est plus qui m'ont un peu surpris, étonné et intéressé.
Oui, alors les études, j'allais dire, plutôt de lettres à la base, bah, hein, de lettres et d'histoire qui m'ont amené d'ailleurs du côté de la Sorbonne. Mmh. Et puis... Ensuite, le goût de l'histoire et le goût du théâtre m'ont amené à écrire, déjà dans un premier temps, une écriture qui était une écriture théâtrale pour la radio, pour notamment France Inter, mm-hmm. et puis ensuite vraiment pour des pièces théâtrales historiques. Voilà.
D'accord. Est-ce que j'ai le droit de te dénoncer pour commencer? Parce que c'est pas de moi.
Oui, vas-y.
Quand on va sur ton site internet, on trouve comédien, ouais. auteur, ouais. théâtre, ouais. théâtre diversion, cinéma, TV, ouais. vidéo, ouais. voix. En fait, en résumé, qu'est-ce que tu ne fais pas, s'il te plaît?
En fait, je te dirais que un comédien, pour vivre de son métier, doit se diversifier. Et c'est un petit peu depuis toujours hein, que le comédien a été comme ça sur tous les fronts. Alors après, on n'est pas bon partout. Il y a des domaines dans lesquels on doit travailler un peu plus que d'autres, mais souvent, j'allais dire que c'est ça. C'est un comédien, c'est comme un artiste en général, c'est beaucoup, beaucoup de travail et un petit peu de talent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ça se traîne au travail tous les jours. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'activités et aussi qui sont des activités que j'aime, évidemment.
Si je te demandais de me chanter le temps des cerises, est-ce que tu le ferais, s'il te plaît?
Alors, le matin comme ça, ça va être difficile, ça va être très difficile. Non, je voudrais pas que tes auditeurs quittent la radio comme ça immédiatement et je voudrais pas qu'il y ait du mauvais temps qui arrive dans la région. Non, non, s'il te plaît, pas ça tout de suite.
Alors, pour les auditeurs, vous allez comprendre pourquoi la question, c'est que moi, Donna, je l'ai pratiqué, oui. entre guillemets, il y a déjà 3 ans. Le 15 juillet 2021, pour être précis, puisque si là, oui. on va parler d'un spectacle qui parle du masque de fer, où il est en même temps auteur et comédien, il a été metteur en scène d'un spectacle avec une personne formidable que j'avais croisée. Alors, je vais t'aider un tout petit peu, elle s'appelle Anne-Sophie. Et
oui,
c'était
oui, Anne-Sophie.
Le spectacle Montmartre en chanson.
Exactement, exactement, que j'ai eu la joie de mettre en scène. Et qui fonctionne très très bien, de mieux en mieux. Et Anne-Sophie, qui est une chanteuse, comédienne, conteuse, qui a beaucoup de talent et de cordes à son arc, et c'est formidable. Je me suis beaucoup amusé avec elle et réciproquement. Et c'était vraiment, en plus, j'adore ça puisque j'ai fait aussi, il y a fut un temps, du seul en scène, du one man show, des choses quand on est un peu plus jeune comme ça. Et j'aime cet univers là aussi, qui est très complémentaire. Ou à l'univers un petit peu plus classique, sérieux, etc. Et les deux ne sont pas incompatibles. Et c'est ça, moi, que j'aime. Quand il y a ce mélange des genres et qu'on peut passer d'un univers à l'autre avec autant de sérieux hein, dans la façon de travailler, mais avec une jouissance et quelque chose de très ludique au résultat, pour le public.
D'accord. Dis-moi, comment est-ce qu'on fait pour passer de D'Artagnan au masque de fer ?
Ben c'est d'une logique imparable pour le coup parce que J'avais écrit une pièce qui s'est jouée, qui se joue encore de temps en temps, qui s'appelle Fouquet d'Artagnan ou une amitié contrariée, qui était l'histoire peu connue de cette amitié, justement, entre le surintendant des finances Fouquet et d'Artagnan, qui était le premier flic de France à l'époque. Et dans mes investigations, dans mes recherches, et là, j'ai vu qu'effectivement, le masque de fer était lié énormément à d'Artagnan et à Fouquet. Donc, ça m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus. Et c'est comme ça que l'idée a germé de me dire, bon, OK, on a plein de théories sur le masque de fer. On en a à peu près une cinquantaine, hein, qui nous sont d'ailleurs développées par Dumas, Pagnol et consorts. Et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de parler, bien sûr, de qui est sous le masque, mais surtout de celui qui a créé le masque, qui a créé la légende. Parce que lui n'a pas, hélas, survécu à son invention démoniaque. Et pourtant, son parcours est assez incroyable. Donc voilà, c'est comme ça que m'est venue cette idée.
D'accord. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, comment dire, le titre inspire, puisque ça s'appelle Le Masque de Fer et le Mousquetaire, ou Le Secret de Saint-Marc.
Voilà. Et ça, j'allais te dire que le plus important là-dedans, bien sûr, le masque de fer et le mousquetaire, mais le plus important, c'est Monsieur de Saint-Marc, qui est effectivement ce gouverneur de Pignerol, d'exil, de toutes les geôles de France à cette époque-là, c'est-à-dire moitié du XVIIe, fin XVIIe, et un petit début du XVIIIe, et qui a fini d'ailleurs gouverneur à la Bastille, et qui a énormément bien connu le masque de fer, puisqu'il en est à l'origine, et la pièce, justement, va nous montrer son parcours, nous faire prendre conscience de la démarche qu'il a eue pour en arriver là, c'est-à-dire arriver à créer cette légende de toute pièce. Quelle est la démarche psychologique de ce personnage, qui est à la base un contemporain de D'Artagnan, puisque lui aussi est mousquetaire.
Qu'est-ce qui t'a donné envie? C'est le sujet qui t'a intéressé?
Oui, c'est vraiment au départ. J'aime beaucoup l'histoire, mais je ne suis pas, j'allais dire, un fin connaisseur comme un Laurent Deutsch qui a toutes les dates, qui peut passer d'un siècle à l'autre, etc. Moi, c'est plutôt effectivement les sujets qui vont me rapprocher d'une période historique. Et là, le sujet, je trouvais que c'était un sujet en or, puisque évidemment que sous le masque, on a mis à peu près toute la cour de Versailles sous le masque. Tout le monde y est passé. On a cru un moment que c'était Fouquet, on a cru que c'était D'Artagnan aussi. On a cru à plein de théories farfelues que j'évoque dans la pièce. Et puis, évidemment, ce créateur, Monsieur de Saint-Marc, qu'on a complètement occulté, qu'on a oublié, alors que Dumas aurait pu écrire sur lui tout autant qu'il l'a fait sur D'Artagnan. Sauf que Saint-Marc est le parfait négatif de D'Artagnan. Voilà, ils sont vraiment à l'opposé. Et c'est ça qui était intéressant. C'est de dire, vous avez eu un D'Artagnan, et ben maintenant je vais vous montrer un Saint-Marc. Et c'était ça aussi, les mousquetaires.
D'accord.
Le mousquetaire de l'aimant, qui est merveilleux, qui est beau, qui est extraordinaire. Et puis, il y a des mousquetaires qui sont un petit peu plus sombres, un peu plus durs, des hommes d'armes d'élite. Mais, qui sont allés très loin, très très loin. Avec une démarche aussi psychologique personnelle, on est bien d'accord. Mais voilà, les deux liés m'intéressaient énormément.
Sans dévoiler la fin, est-ce qu'à la fin du spectacle, on sait qui était le masque de fer?
On a effectivement une réponse qui reste toujours partielle, mais qui reste quand même la plus probable, parce qu'on a pas mal d'historiens, dont notamment Jean-Christian Petit-Fils, qui s'est énormément aussi inspiré des travaux le précédent, qui nous parle d'un prisonnier particulier qui aurait été effectivement affublé de ce masque. C'est une des théories les plus probables et qui est assez simple. Je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il faut voir
non,
le spectacle. Voilà, tout à fait. Mais qui est assez surprenante, qui est très très surprenante parce que c'est clair qu'on a bâti des récits incroyables, notamment sur le frère jumeau du roi de Louis XIV.
Oui,
et on est c'est les Américains qui adorent ça, grâce à Voltaire. Mais on en est très très loin. On est très très loin de ce côté très rutilant, très brillant, très spectaculaire. On est sur autre chose qui est plus proche de nous, qui est plus quotidien, mais qui n'est pas moins inquiétant, si ce n'est plus, d'ailleurs. Si ce n'est plus. Donc oui, on a effectivement une première réponse apportée par Jean-Christian Petit-Fils et aussi par les documents qu'il a pu consulter, notamment des vieux registres qui ont été épargnés, parce que c'est vrai que la Bastille, la Bastille a brûlé, les registres aussi. Et il faut le savoir, à l'époque, alors je ne sais pas si tu le sais, Alain, mais tous les prisonniers qui étaient enfermés là-bas, en tout cas les prisonniers d'État qui représentaient un danger, ils avaient tous un pseudo. Mmh. Donc c'était sous pseudo, ils n'avaient pas ton nom véritable de famille qui était écrit. Donc, si tu arrivais, par exemple, avec une jambe en moins ou tu avais un problème à un œil, on t'appelait le Kudjat ou le Borgne, Monsieur le Borgne ou Monsieur le Kudjat. Mmh. Donc, parce qu'il fallait que ça reste secret. Et c'est ce côté très secret aussi de ce siècle sous Louis XIV qui est assez impressionnant. Parce que Louis XIV était plus un type qui avait l'habitude d'enfermer que de tuer ou que d'empoisonner. Ça aussi, c'est un changement dans les pratiques. À une certaine époque, dans le siècle précédent, on avait une habitude d'empoisonner. Mmh. Du côté de Louis XIV au XVIIe, on est plus pour l'emprisonnement perpétuel, par exemple, pour Fouquet, par exemple. Oui, oui.
D'accord. Allez, on va dans la question intelligente maintenant.
Dis-moi.
Accroche-toi parce qu'elle est très intelligente. Qu'est-ce qu'on va chercher de plus quand on a déjà fait 247 festivals off d'Avignon? Peut-être pas 247, hein, peut-être un peu moins.
Oui, c'est ça, j'allais te dire. À part le fait que ce soit... alors, 247 festivals, je ne sais pas qui a pu le faire, mais
il n'y en a pas eu 247. Voilà. Non, mais toi, tu es installé... D'après ce que j'ai compris, déjà dans l'an de ta mère, tu faisais déjà le Festival Off.
oui, ma défunte mère, oui. Ben, en tout cas, elle adorait le théâtre et je crois que si j'ai hérité de cette passion, c'est bien elle qui me l'a transmise, c'est indéniablement elle et mon père aussi, mais elle était particulièrement férue de théâtre et d'histoire, tu vois, comme quoi les chats ne font pas des chiens.
Vas-y, te gêne pas.
pour répondre à ta question, c'est vrai que qu'est-ce qui fait que tu fais le Festival Off, je crois que c'est surtout parce que tu as la possibilité de rencontrer un public que tu n'as pas véritablement la chance de voir ou d'une manière aussi décontractée et aussi conviviale à Paris ou dans les grandes villes ou en tournée. Mmh. En tournée, tu passes d'une ville à l'autre, etc. Bon, il y a les gens qui viennent te remercier ou discuter un petit peu avec toi à la fin, mais ça dure pas très longtemps. Là, ce qui est extraordinaire, c'est que ça m'est arrivé, tu vois, en tractant ou en parlant de mon spectacle à des gens, de rester un quart d'heure, 20 minutes à discuter histoire, à discuter effectivement de faits historiques avec des dates, avec des gens qui étaient sérieux d'histoire. Et je dis, ah non, mais alors, je me souviens pour le Fouquet d'Artagnan, mais d'Artagnan, c'est Louis XIV, c'est Louis XIII. Je dis non, c'est Louis XIV parce que j'avais affaire à des gens qui avaient lu Dumas et Dumas évidemment avait transposé 50 ans avant. Donc c'est Louis XIV. Enfin, des choses comme ça que tu peux avoir pendant le Festival Off et que tu as vraiment plus rarement au cours de l'année, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. À part le fait évidemment que ce soit à la chaleur, que ce soit décontracté. Mais c'est ce contact-là privilégié que tu vas avoir avec les gens dans la rue. Et tu reviens aux racines d'ailleurs du théâtre. Le théâtre se passait aussi dans la rue, tu vois. Tu prenais un tréteau, des tréteaux, une planche et c'était parti. Voilà, c'est ça qui est intéressant.
Où est-ce que ça joue? À quelle heure? Quand? Alors, est-ce que ça commence? Vas-y.
Alors, ça commence à Jeux Olympiques oblige. On a été obligé, évidemment, d'avancer un tout petit peu les dates de la première. C'est le 29 juin, la première. Mmh. C'est une création, donc ça reste encore perfectible et ça va se parfaire avec la présence du public. Et la dernière, ça sera le 21 juillet. Et ça se joue tous les jours à 10h25, très précise, à un théâtre qui est un très joli petit théâtre de 50 places qui s'appelle l'Autre Carnot, rue Carnot, cette rue Carnot. Et là, c'est un petit bijou parce que l'acoustique est merveilleuse et la personne qui s'en occupe, Stéphane Dupont, fait un travail remarquable pour, j'allais dire, l'entretien de ces salles. Mais oui, t'as une bonne climatisation, t'es bien assis et t'es bien accueilli avec le sourire et ça fait plaisir. Et c'est un garçon qui aime évidemment le spectacle. Ça va du one-man show au théâtre. Il fait un petit mélange de tout ça et il propose cette programmation et dans, vraiment dans de bonnes conditions et avec le respect de l'artiste. Et pas que ça se perde, mais c'est bien, c'est formidable. Donc chapeau aussi à lui, chapeau à l'équipe.
Ça, c'est bien de dire, parce que c'est vrai qu'en effet, on entend souvent quand même que Avignon, c'est juste de la location de set ou de temps, d'un temps horaire pour le théâtre. Mais il y a aussi quand même d'autres théâtres qui font les choses bien, qui accueillent comme il le faut le public, les artistes. Oui. Ça, c'est très important quand même.
Ah mais clairement, parce que ça reste effectivement une opération de promotion pour toutes ces compagnies. Mmh. Ça, c'est indéniable. Mais il faut garder évidemment l'humanité de la chose, parce que quand même, on joue des pièces où on parle d'humanité, donc c'est quand même la moindre des choses d'être un peu humain entre nous. Et effectivement, c'est bon de le souligner quand tu tombes sur des personnalités comme ça. Ce qui est le cas avec Stéphane. Stéphane, ça fait des années que je travaille avec lui, notamment avec notre Fouquet d'Artagnan. Ça s'est toujours très très bien passé, parce qu'il est dans cette optique-là, dans ce comportement-là. Donc, formidable.
Allez, dernière question, t'es prêt?
Allez.
C'est quoi ton rêve?
Ah, mon rêve. Alors écoute, quand j'étais jeune, j'avais plus. Ah, quand j'étais jeune, ça fait un peu vieux con, mais j'ai tenir. Quand tu sors frais et moulu du conservatoire, t'as toujours des rêves de grandeur. Ouais. T'es un peu dans sa luste dans la folie des grandeurs, tu vois, avec Louis de Funès. Il suffit que tout le monde meure pour que je devienne roi. Ça. Alors, là, je dirais que c'est plus modeste. Mais attention, une modestie qui est quand même un peu ambitieuse dans le sens où, comme tu le disais justement au début de notre entretien, c'est formidable quand tu peux à la fois divertir les gens et leur insuffler un petit peu d'histoire, un petit peu de faits qui vont leur ouvrir un peu la conscience, modestement, tu vois, et leur montrer qu'il y a une beauté qu'ils ont en eux aussi, et qu'ils ignorent peut-être, ouvrir des champs de possibilités à ces gens-là. Dire voilà, le théâtre, ça peut faire peur à certains, mais venez, parce que vous allez apprendre des choses, et en même temps, vous allez ressentir plein de d'émotions. Et c'est ça, en fait, mon ambition, c'est ça. C'est vraiment d'être sur un plateau ou devant une caméra quand il y a des projets qui sont intéressants, et de partager ces moments-là. Et surtout, là, dans ces périodes très troubles, où c'est bon de tout d'un coup de se dire, tiens, je vais vous parler d'une supercherie, une grande manipulation qu'on a un peu oubliée, qu'était le masque de fer. Parce que ça reste une manipulation, somme toute. Hein. Mm-hmm. Entendons-nous, tu vois. D'accord. C'est ça qui est important.
Donat Guibert, Le masque de fer et le mousquetaire ou le secret de Saint-Marc, c'est à l'autre Carnot, tous les jours, sauf le 1er, le 2, le 8 et le 15 juillet, à 10h25, à partir du 29 juin. Moi, je veux te remercier d'avoir été aussi intéressant, aussi passionnant. Et puis, n'hésitez pas à vous faire plaisir, les auditeurs, allez faire un tour dans ce théâtre L'Autre Carnot à partir du 29 juin pour voir ce très beau spectacle. Merci à toi.
Merci Alain, merci de ton accueil, merci aux auditeurs aussi. Et j'espère qu'on se verra lors d'une représentation. Merci à toi Alain de ton accueil.
Merci à toi.